L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
C'est l'heure du LEM Sport sur Transistor. Une fois par mois, le LEM se met en mode sport et comme à chaque fois, il est question de sport. Nous retrouvons Fred et Hugo. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous. Salut Pierre-Yves, salut Fred, salut à tous.
C'est bon, la connexion avec Hugo est nickel. Parfait. Tu nous entends bien, tout est bon.
Tout va bien, cognac G, n'est-ce pas?
Ah oula, oula, il faut avoir la ref. Au programme de notre émission, on parle de jeux traditionnels bretons. Nous sommes avec Brendan Petit, chargé de médiation à l'Écomusée des Monts d'Arrée. Bonjour Brendan.
Bonjour à tous.
Alors, l'Écomusée organise un événement dédié à ces jeux bretons pendant les JO. Quel blasphème, le 28 juillet prochain.
Voilà.
Brendan, tu peux nous en donner les grandes lignes?
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, le 28 juillet prochain, l'Écomusée des Monts d'Arrée organise le festival Jeux et Sports Bretons sur la commune de Saint-Rivoil, donc sur le site de la Maison Cornec. Ça, c'est la troisième édition de ce festival qu'on avait commencé au Moulin de Carouat à Comana, l'autre site des Monts d'Arrée, côté Léon. Et on a rapatrié l'initiative, du coup, l'année dernière et donc cette année de nouveau, le 28 juillet, voilà, à la Maison Cornec. Donc l'idée, ça va être un petit peu de présenter différentes disciplines qui sont pratiquées sur le territoire. Alors donc ça part bien sûr de sport et jeux traditionnels, mais pas seulement. L'idée, c'est aussi de mettre en valeur toutes les différentes disciplines sportives ou jeux qui sont sur une certaine dynamique sur le territoire des Monts d'Arrée et en milieu rural globalement en Bretagne. Ouais.
Bon, tradition et modernité, tout simplement.
Exactement. En fait, l'évolution des pratiques sur le territoire, quoi. C'est-à-dire un petit peu, les prérogatives de l'Écomusée qui sont d'étudier un petit peu les rapports entre un territoire et ses habitants, à travers l'histoire, bien sûr, à travers le patrimoine, mais aussi à travers les pratiques actuelles et les enjeux à venir également du territoire, ouais.
Oui, alors sur ce point, c'est vrai que les écomusées, donc dans le cadre du parc d'Armorique, on les attend surtout sur la culture, le patrimoine, mais finalement le sport, c'était pas une dimension qui apparaissait si évidente que ça comme ça quand on regarde à première vue. Comment est né ce projet d'associer aussi la dimension sportive dans l'écomusée?
Alors, il est né donc en 2021 lorsque justement on a fait le constat que les écomusées en général. Et nous, à ce moment-là, on ne s'était pas complètement emparé de cette question de l'aspect patrimonial du sport et des jeux. Et c'était quelque chose qui était vraiment important pour nous d'aborder, puisque on est quand même sur un patrimoine, justement, hein, puisque le sport, c'est sport, c'est une forme de patrimoine immatériel, hein, c'est-à-dire ce sont des savoir-faire, une culture, des pratiques, des traditions, des évolutions aussi. C'était vraiment important pour nous de nous emparer de ces thématiques-là et de proposer sur le territoire un événement qui à la fois apportait quelque chose de très ludique, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir bien sûr découvrir ces sports ou redécouvrir, et puis surtout de s'initier et de pratiquer. C'était aussi l'occasion de faire se rencontrer les clubs, les personnes qui sont un peu les acteurs de toute cette activité sportive et culturelle sur le territoire. Et donc, on s'était dit, quoi de mieux qu'un gros événement au cœur de l'été, justement, qui puisse à la fois répondre à une attente des gens du coin, des gens du territoire, parce que l'idée, c'était aussi que eux puissent venir. Et puis aussi de faire découvrir aux gens de passage, aux différents touristes, aux voyageurs, aux visiteurs, ce qui se passe sur le territoire, sur ces thématiques-là de sport et de jeu. Quoi.
Quels sont ces jeux et disciplines alors qu'on peut découvrir dans le cadre de votre manifestation?
Alors au fil des années, on a grandi et on élargit de plus en plus. Parmi ceux qui étaient dès la première édition, on trouvait donc la Fédération des sports et jeux bretons, présidée par Serge Falaisande. Donc là, on va trouver des jeux traditionnels un peu de jeu d'adresse et aussi pas mal de jeux de force. Donc les jeux de force, ça va être du soulevé de civière, du levé de perche traditionnel sur le côté, on va avoir du soulevé d'essieux, du tir à la corde bien sûr. Voilà, c'est en fait des pratiques qu'on trouvait traditionnellement en milieu rural, qui sont inspirées en fait des gestes de travail paysans finalement, quoi.
Hugo, si tu es toujours avec nous, n'hésite pas si tu as des questions. Hein. Tu peux intervenir quand tu veux.
J'ai deux questions là, qui me viennent en tête comme ça.
Eh ben vas-y.
La première, c'est en termes de calendrier, donc on sera en plein été, en pleine période des Jeux Olympiques. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est un pied de nez? Est-ce que c'est l'idée de rassembler un peu un moment où il y aurait du sport partout et le territoire doit y prendre sa place? Comment est-ce qu'on vit ça et comment est-ce qu'on voit ça du côté de notre invité? Et puis, vous avez parlé là de ces pratiques un peu de force. Est-ce que c'est quelque chose qui est culturel justement au niveau du sport breton?
Alors, concernant le calendrier, c'est vrai que ça s'inscrit du coup au niveau, dans le calendrier des JO. C'était pas une volonté, j'allais dire, c'était pas la volonté première, mais il se trouve que ça tombe plutôt bien, effectivement. Voilà, puisque,
parce que l'événement avait déjà eu lieu l'année dernière, à peu près à la même
voilà,
période.
Voilà, sur la même période. L'idée, en fait, le choix du calendrier, pour être tout à fait honnête, était de pouvoir, justement, comme je disais, étant donné que l'événement était vraiment à destination, alors bien sûr, pourquoi pas des touristes, donc on est en plein période 15 juillet, 15 août, mais on voulait aussi que vraiment ce soit quelque chose qui soit à destination des locaux et des gens du territoire. Et on savait que souvent, les gens partent plutôt en vacances, les artisans, etc., vont partir plutôt en vacances au mois d'août. Donc si on faisait ça fin août, on avait peur de, ou même mi-août, on avait peur que ces personnes-là ne puissent pas participer. Donc on se disait, la période charnière un petit peu, le week-end en fait, entre juillet et août, c'était pas mal pour essayer de réunir un petit peu tout le monde. Donc voilà, au niveau du calendrier, c'était ça. Alors c'est vrai que ça fait un petit... Alors sans faire un pied de nez, mais ça fait un petit... Une petite référence, effectivement, à nos propres activités qu'on ne retrouvera pas forcément au JO officiel, mais qu'on pourra trouver chez nous dans les mondes arrière.
Et la deuxième question d'Hugo, je vais la résumer en quelques mots. Peut-être l'impression aussi que le Breton aime de manière assez traditionnelle les sports de bourrin.
De bourrin, je ne sais pas. Les sports de force, du moins, certainement. Mais alors ça, je pense que ce n'est pas exclusif à la Bretagne. Mais c'est vrai que je crois que c'est naturel depuis dans quasiment toutes les sociétés. Souvent,
allez hop, il y a un tronc d'arbre qui traîne, voilà, là on fait une compète.
On aime comparer nos forces, savoir qui est le plus costaud et du coup ça va passer. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en termes d'apprentissage technique, la comparaison va pouvoir se faire à travers des gestes qui ont pu être acquis en fait dès le plus jeune âge par le travail, en fait par le travail paysan. Et parce que soulever de civière finalement, lever des cieux, enfin, c'est des mouvements qu'on va retrouver d'ailleurs qui pourraient ressembler par exemple à des mouvements d'épaules jetées qu'on retrouve en haltéro. Enfin, donc
justement, est-ce que c'est quelque chose qui se maintient aujourd'hui dans la pratique, ou alors est-ce que ça a un peu un côté plus patrimonial à notre époque, et c'est aussi l'idée de mettre en valeur cet aspect?
Mais je pense que c'est très circulaire cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Il y a eu des moments où les pratiques ont commencé à tomber un peu dans l'oubli, et j'ai l'impression que depuis quelques années il y a un regain d'intérêt quand même pas mal pour les jeux de force. On voit au niveau des pratiquants et des pratiquantes, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de filles qui pratiquent ces jeux, et comme il y a un aspect, en fait, comme dans tous les jeux de force, il y a un aspect très technique. Finalement, les filles d'ailleurs s'en sortent très bien, puisqu'elles ont souvent une appétence aussi pour l'apprentissage technique et un sérieux dans l'apprentissage qui fait que des fois elles arrivent à faire des scores tout à fait intéressants. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect patrimonial qui est forcément fondamental, puisqu'on est sur un héritage, sur quelque chose de traditionnel qui a traversé les époques, mais qui est toujours pratiqué. Justement, on essaye de garder les outils traditionnels. Par exemple, je parlais du soulevé des cieux. C'est vrai que ça pourrait être pratiqué. Alors, je ne sais pas, si on voulait le moderniser complètement, on pourrait se dire, on prend un kettlebell, par exemple, et puis ça fera tout à fait l'affaire. Mais non, l'idée, c'est quand même de pouvoir garder les outils traditionnels pour pratiquer ces jeux, quoi.
On va profiter aussi de ta casquette d'historien aussi, d'amateur d'histoire, pour un peu plus évoquer en détail deux sports qui seront présents sur cette journée. On parlera rugby et Gouren. Oui. Et on va commencer justement par faire un petit point sur le Gouren qui sera présent sur cette journée. On va profiter de nos deux stagiaires présents dans les studios à Transistor. Et on va faire un petit point, le Gouren pour les nuls avec Hugo. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous rappeler les règles principales du Gouren? Alors Hugo qui est en studio, il y a un Hugo en visio et il y a Hugo en studio.
Les règles, alors oui, elles sont assez simples à comprendre. Le Gouren est une lutte qui se pratique uniquement debout. Le but est de marquer un lame, c'est-à-dire de projeter son adversaire sur le dos. Les fauchages et balayages sont autorisés et des pénalités sont données, les phasies, et le lutteur est disqualifié au bout de 3 fautes.
Alors, est-ce qu'il existe une tenue réglementaire ?
Alors oui, pour commencer, on peut dire que le lutteur doit être pieds nus. Le combattant ou la combattante s'habille d'une veste blanche à la toile épaisse, serrée par une ceinture sur le côté. Et pour le bas, un pantalon noir est porté et lacé au-dessus du genou afin de faciliter les prises des jambes typiques du Gouren.
Alors, un combat de Gouren, à quoi ça ressemble ? Est-ce qu'il faut s'attendre à y passer la nuit ?
Un combat dure 7 minutes. Avant le combat, un serment est prononcé afin d'exprimer les valeurs de ce sport breton, loyauté, honneur et sincérité. Et les lutteurs, avant et après le combat, font une accolade surprenante consistant à toucher 3 fois la joue de l'autre. Comme je disais, ça dure 7 minutes. Et si un lame est effectué, le match se termine sur une victoire parfaite. Sinon, le vainqueur gagne au point. Dans le cas où aucun des deux combattants n'a réussi à se départager, il y a alors une prolongation d'une durée égalant à la moitié du temps initial, c'est-à-dire 3 minutes 30.
Eh ben merci Hugo. Alors le point fact-checking, on était bon Brendan ?
On était bon, effectivement. Ouais, c'est le Gouren, c'est vrai que c'est une des pratiques qui était... c'était impensable de pouvoir organiser un événement comme ça sans le Gouren. Là, nous, on travaille depuis le début avec le Skol Gouren de Pleyber Christ, qui emmène leurs lutteurs et qui font des présentations... Alors, démonstration, initiation, même pour les plus jeunes. Hein, alors, tu parlais des rochettes justement tout à l'heure. Alors c'est intéressant justement le vocabulaire aussi autour du Gouren. C'est là qu'on se rend compte que on est vraiment sur un de nos sports nationaux en Bretagne. Quoi. C'est-à-dire que on voit bien que ce soit les règles ou le nom des tenues, etc., tout est en breton. C'est-à-dire que et on se rend compte d'ailleurs, on parlait de patrimoine tout à l'heure, mais c'est important justement de ramener ça dans la sphère publique, puisqu'on se rend compte que tout le monde connaît le judo, tout le monde connaît le nom d'une tenue de judo, le kimono, tout le monde connaît le tatami, et est-ce que tout le monde connaît le lam, qui est l'équivalent du hippon, tu t'en parlais tout à l'heure.
Le hippon qui est l'équivalent du lam, quoi.
Le hippon qui est l'équivalent du lam en breton, c'est-à-dire quand les deux épaules, enfin le dos et les deux omoplates touchent le sol. La rochette, tu parlais de la rochette, la tenue, le bragou pour le pantalon, effectivement. Tout le monde connaît le tatami, on a le palen en breton. Donc on voit bien que... Voilà, toutes les règles, toutes les tenues sont en breton et c'est vraiment un patrimoine qu'il est important de présenter aussi.
Et qu'est-ce que ça représente le Gouren dans les campagnes du 19e et du 20e, du début du 20e, c'est pratiqué ?
Ouais, alors l'histoire du Gouren est assez intéressante parce qu'on estime, alors bien sûr ça a évolué, hein, on estime que ça va arriver en Armorique avec l'arrivée des Bretons en fait à partir du 4e siècle.
Ah oui, c'est...
Ouais, on a des traces de témoignages de lutte qui étaient plutôt pratiquées par les nobles. Donc c'était en fait un entraînement guerrier finalement, pratiqué par la noblesse guerrière, quoi. Et on a des exemples d'ailleurs assez intéressants, il y a une fameuse anecdote d'un tournoi de Gouren, d'un combat de Gouren entre Henri VIII et François Ier à côté de Calais. Et François Ier aurait mis une toise à Henri VIII, et ça lui aurait coûté des négociations. Donc, on voit voilà, que
c'était... C'est le Gouren qui est pratiqué ?
Ouais, c'est,
ou c'est on parlait, une lutte
C'est une lutte qui est affiliée, enfin, qui ressemble à... comme de Goudo ou Gouren, quoi.
Avec comme objectif de mettre l'autre personne
exactement,
sur les deux omoplates.
Voilà, avec les mêmes règles. Avec les... Et alors, c'est vrai qu'après la Révolution française, avec l'abolition des privilèges, on va aussi abolir, justement, pour les nobles, cette idée de pouvoir s'entraîner un peu au combat via la lutte, quoi. Et cette pratique va être reprise dans les campagnes. Alors, c'est assez territorialisé, on va dire, hein, mais c'est vrai que, alors en Trégor un petit peu, en Cornouailles, dans le nord-ouest du Vannetais aussi, on va en trouver. Et c'est vrai que les tournois de Gouren, 19e et début 20e, pouvaient être assez assez violent, effectivement. Parce
c'est des tournois qui sont organisés par qui ? C'est les évêchés ou les paroisses ?
Non, pas trop les évêchés.
La religion ne vient pas mettre trop son nez là-dedans.
Non, l'Église avait tendance justement au 19e, à condamner un petit peu les pratiques de lutte.
Oui, on en parlera un petit peu après.
Mais ensuite, paradoxalement, ça va revenir, notamment à l'occasion des pardons. En fait, souvent, dans les pardons, on allait pouvoir, c'était pas rare, de trouver des tournois de Gourenne, justement, à l'issue des pardons, quoi. Et donc ça va pouvoir revenir, mais c'est vrai que la pratique du Gourenne dans les campagnes pouvait être relativement violente, puisque on pouvait pratiquer parfois sur du sol en terre battue, donc c'est un peu plus dur que ce qu'on va trouver actuellement.
Et les deux omoplates, donc,
quand c'était pas la nuque, effectivement, on a quand même quelques textes qui témoignent de lutteurs qui ont laissé leur peau
En faisant des recherches pour préparer cette émission, on a vu quelques blessures qui pouvaient aller jusqu'à la trépanation.
Voilà, c'est
ça. Et l'éborgnage.
Voilà, donc.
Alors j'ai une petite question, ouais. Parce qu'on c'est un peu à la mode avec le MMA de comparer les différents arts martiaux et de voir qui est le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame, quoi. Mais ça donne quoi le Gourenne, en fait, si on compare au judo ? Est-ce qu'il y a des similitudes, justement ? Et est-ce que le niveau de Gourenne arrive à concurrencer certains autres sports
Sans problème, bien sûr. Comme toutes les luttes, en fait, toutes les formes de lutte, on va trouver effectivement alors il y a beaucoup de similitudes avec le judo au niveau des passages de hanches, etc., des saisies. Il y a des techniques qui sont autorisées en Gourenne qui sont interdites en judo. Par exemple, le cliquette, qui consiste à venir entourer la cheville de l'adversaire, en fait. Hein. Donc ça, c'est interdit en judo, c'est autorisé en Gourenne. Mais après, oui, alors ce qui est intéressant sur les comparaisons des luttes, par exemple, il y a beaucoup de rencontres qui se font avec les autres, ce qu'on appelle les luttes celtiques, qui sont au-delà des luttes celtiques, puisqu'on va trouver aussi la glima islandaise, mais on va trouver des gourenériennes, donc des lutteurs bretons, qui vont aller lutter... Alors en backhold, par exemple, qui est la lutte écossaise, le Gourenne se rapproche pas mal de la lutte cornique aussi, qui est un petit peu moins pratiquée aujourd'hui. Et puis avec la glima islandaise également. Donc il y a des lutteurs comme ça, bretons, qui vont s'aventurer aussi sur d'autres terrains pour affronter des Écossais, des Islandais, etc. Dans leur domaine, quoi.
On peut dire que le Gourenne, depuis qu'il est là aussi, peut-être... un petit peu travailler le terrain pour laisser place aussi à d'autres sports de combat. Là, tu as évoqué le MMA. Mmh. Ben voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un bel événement, l'Arena à Brest.
Et puis, bien sûr. Et puis, alors au niveau du Gourenne, par exemple, à l'échelle locale, il n'est pas rare de voir des lutteurs de Gourenne qui pratiquent aussi d'autres sports de combat. Par exemple, on va avoir des gens qui ont commencé le Gourenne, qui sont partis en pancrace à l'époque, avant que le MMA soit autorisé.
Oui.
On a aussi actuellement des lutteurs qui font également du sambo, donc le sport de combat russe avec des percussions, donc une partie lutte, une partie percussion. Donc effectivement, il y a des ponts
Jour, un combattant de MMA pourra venir du Gourenne.
Oui, pourquoi pas, bien sûr.
On sait combien de représentants il y a de Gourenne, de gens qui font du Gourenne actuellement.
Ah, j'ai pas les chiffres exacts de licenciés. Mais c'est vrai que c'est une discipline, je sais que c'est une discipline qui est par contre en expansion. On voit, on en parlait avec le Skol de Pleyber Christ, et ils ont énormément de licenciés, et puis de plus en plus tous les ans. Et puis ça peut commencer très jeune, en plus c'est ça qui est intéressant, comme tous ces sports là c'est des sports avec qui apportent énormément de valeur, et puis qui sont très bons pour le développement aussi, quoi.
Et en parlant d'autres sports qui a énormément de valeur, un qui aussi s'implante progressivement en Bretagne, c'est le rugby. On va en parler assez rapidement parce qu'il nous reste assez peu de temps. On va faire un petit point avec Liam là. Alors on va peut-être aller directement à la deuxième question, parce qu'on a pas mal parlé d'histoire. Est-ce que tu as réussi à trouver pourquoi le rugby avait mis si longtemps à s'installer en Bretagne dans tes recherches ?
Alors oui, déjà il faut savoir que le rugby est créé en Angleterre au 19e siècle. Il s'exportait vers les colonies britanniques, ensuite dans les villes portuaires grâce aux commerçants britanniques. D'abord en Bretagne et en Normandie. C'est des zones très proches de l'Angleterre. Ensuite, il se développe très vite en Bretagne et en Normandie, mais l'Église le juge trop violent et n'aime pas trop le contact entre les hommes. Et comme c'est l'Église qui organise principalement les compétitions sportives, ils vont préférer le football au rugby et vont un peu le délaisser.
Donc à la fin du 19e. Donc. Et quels sont les grands clubs de rugby maintenant en Bretagne ?
En Bretagne, on peut voir le RC Vannes qui est monté en top 14 pour la Ligue masculine, ou le Stade Rennais aussi pour la Ligue féminine qui est en élite 1. Et plus localement, on peut voir Plouzané en Fédéral 3 ou aussi Brest qui est en honneur.
Voilà, donc sur cette journée du 28 juillet, le rugby sera là aussi, tradition et modernité. Du
ouais, Rennes, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, on trouve intéressant vraiment de pouvoir proposer le rugby sur cette journée-là, parce que c'est vrai qu'en milieu rural, on se rend compte que c'est un sport qui trouve quand même un certain écho.
Bah, on a Châteaulin, et ici, on a, pas trop loin.
Bah, on avait reçu d'ailleurs dans
oui,
le
ouais, ouais. Bah, c'est, donc ils seront présents, justement, c'est le RFCK, justement le Rugby Football Club de Castelline, là, qui seront présents à l'occasion de cette journée, qui proposeront aussi de l'initiation, qui montreront un petit peu tous les différentes activités qu'il peut faire. Et c'est vrai que ça montre aussi un peu cet aspect transversal de la journée, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment avoir les sports et jeux traditionnels, mais on voulait aussi montrer toute l'émulation sportive qu'il y a sur le territoire, et le rugby en faisait évidemment partie. Quoi.
Et pourquoi le rugby trouve un écho favorable là, auprès des Bretons en ce moment ?
Alors en ce moment, bon, c'est vrai que moi, depuis quelques années quand même, depuis je trouve une dizaine d'années, pour moi, il y a toujours eu du rugby en Bretagne depuis des années, depuis une trentaine, quarantaine d'années. Mais c'est vrai que depuis, 5-6 ans, là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus il y a un attrait pour cette pratique-là, je pense, pour les valeurs que ça porte, puis aussi pour des grands événements. Hein. Il y a la Coupe du Monde qui a eu lieu l'année dernière, la Vannes qui passe en top 14.
Bon, le destin de Vannes a été plus heureux que l'équipe de France, quand même.
Ouais, c'est sûr, ouais. Mais ça... Voilà, je pense que ça donne envie. Et puis, je pense que les valeurs portées par le rugby, ça, c'est quelque chose qui parle. La convivialité, c'est quelque chose qui vraiment qui parle
aux Bretons.
Ouais, effectivement.
Une question, Fred ?
Alors, j'avais juste un club important, parce qu'ils sont là avec nous depuis le début dans cette aventure, et je tiens vraiment à leur rendre hommage et les remercier, et surtout qu'ils font un carton plein à chaque événement. C'est les Korrigans du Vic, qui est le club de lancer de haches et de couteaux, porté par Anthony Stéphane, qui est un des grands fondateurs justement des différents clubs qu'on va voir en Bretagne. Et c'est vrai que là, ça fait partie aussi des activités pas forcément qu'on aurait vu dans les activités traditionnelles, et pourtant, en fait, qui se retrouvent, finalement, on se rend compte, on en parlait avec Anthony Stéphane, justement, que ce sont depuis aussi longtemps qu'il y a des bûcherons, en fait, il y a des gens qui lancent des haches qui s'amusent à lancer des haches sur des bouts de bois, quoi. Et c'est une pratique, justement, qui est vraiment en plein essor en milieu rural. Ils ont adhéré à la FNSMR, donc la Fédération Nationale des Sports en Milieu Rural. Donc il y a une fédération qui coordonne aussi justement toutes ces pratiques-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'organise de plus en plus. Il y a des formateurs, des animateurs agréés. Donc c'est très encadré. Et ça rencontre un succès absolument fou, quoi. C'est vrai que c'est une pratique qui est absolument addictive, quoi. Une fois qu'on a commencé, c'est difficile de s'en défaire. Voilà.
T'as vu, c'est bon, ça donne envie d'aller. Hein.
Eh ben ouais, moi j'avais peut-être une petite dernière question. Ça se passe à Sarrivoile le 28 juillet. À Sarrivoile, sur le secteur, c'est quoi à peu près le panel d'offres sportives à l'heure actuelle
le secteur ? Disons qu'il y a quand même un panel assez intéressant. Il y a un club de rugby sur la Feuillée qui essaye de coordonner pas mal de choses sur le territoire. Il y a, je disais, le Skolgouren de Pleyber-Christ, hein, bien sûr. Sur Plébin, il y a pas mal d'activités aussi. C'est vrai qu'il faut aller piocher un petit peu.
Le judo aussi, les enfants de Sarrivoile viennent au dojo de l'eau.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, ils se sont initiés aussi, les enfants de Sarrivoile se sont initiés au rugby aussi. Donc on essaye vraiment de faire en sorte que, je pense, sur le territoire. Alors, c'est bien sûr, comme c'est des petites communes.
Bah, tout ça, c'est mutualisé, la solidarité.
Tout n'est pas rassemblé dans un endroit, mais on va trouver, par-ci, par-là, justement, une offre quand même assez intéressante. Et puis, qu'on essaie de dynamiser. Et puis, du coup, justement, le 28 juillet, c'est l'occasion de réunir un peu tout le monde sur un même lieu, quoi.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Brendan, d'être venu jusqu'à nous parler du festival Jeux et Sports Bretons. C'est le 28 juillet à Sarrivoile, à l'écomusée des Monts d'Arrée. Et comme c'est la dernière de l'année, ne perdons pas nos habitudes. On va tout de même retrouver Hugo pour la météo, l'édito d'Hugo, qui colle au climat et l'actualité, si je ne me trompe pas.
Eh oui, on on essaye, car aujourd'hui, c'est la dernière météo de la saison. Oui, oui, je dis juste de la saison. Désolé, Pascal Pro. Ici, quoi qu'il arrive, on a bien l'intention de continuer à saturer les antennes, au moins un mercredi par mois, dès la saison prochaine. Enfin bon, toujours est-il que l'heure n'est pas à la fête. Et le mythique bilan rétrospectif de la saison est bien complexe à écrire. C'est un peu la page blanche. Car bien avant la folie dans laquelle nous avons basculé depuis quelques jours, voire quelques semaines, on sentait déjà un moment spécial. Un moment anxiogène, même sur les terrains sportifs. En tant que supporter lorientais, si la reine d'Angleterre était encore là, elle aurait sans doute qualifié le dernier exercice des Merlus d'Anus Horribilis. Elle aurait bien eu raison. Des errements humains et tactiques improbables ont emmené à la chute vertigineuse du club en Ligue 2. Mais là n'est pas l'essentiel. Le voisin brestois s'est en effet qualifié pour la Ligue des Champions, qu'il jouera à Guingamp. Un génialissime exploit, vibrant dans le jeu et les résultats. Un succès populaire, collectif, qui nous dit peut-être, qui sait, que tout est possible, même le meilleur. Bien que pour eux, la suite s'annonce excitante mais aussi incertaine, là n'est toujours pas l'essentiel. Du côté de l'Ovalie, on en a parlé, nos chers bleus ont échoué à remporter leur tournoi, celui qui leur était promis depuis des années, à la maison, à deux matchs du toit du monde pour un mondial, à un point près. Comme quoi, les destins collectifs se jouent à peu de choses. Mais ce n'est toujours pas l'essentiel, malgré le regain du mois de mars des hommes de Fabien Galthié. Vannes montera en top 14, première division, l'élite, pour la première fois. Un succès dans la continuité qui écrit l'histoire du sport breton, mais laisse en suspens là encore bon nombre de questions. Mais ce n'est toujours pas l'essentiel. Vous me direz donc, l'essentiel, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la fin de règne du Brest-Bretagne Handball, qui signe peut-être la fin d'une longue ère. Tous les cycles ont une fin. N'oublions pas l'échec de remonter en Pro B de basket des Béliers de Quimper ou la descente en deuxième division des filles du Quimper Volley, mais relativisons dans le contexte ces résultats. Car j'en suis désolé, mais l'essentiel se joue durant les deux prochains dimanches. Bien souvent, on dénigre les journalistes de sport. Vous le savez peut-être, on parle de leur déconnexion. Mais soulignons une chose, cette corporation de journalistes fait mieux le travail déontologique et citoyen que d'autres. Alors modestement, aujourd'hui, j'en prends ma part. Avant-hier, j'ai entendu Romain Molina, certes controversé, mais brillant journaliste, expliquer que les présidents de Ligue 1 attendraient de pied ferme l'arrivée à Matignon de Jordan Bardella pour que Vincent Bolloré fasse cadeau au Premier ministre, peut-être, de l'étiquette de futur sauveur du football français, dans le cadre des droits télé du championnat de France, qui, vous le savez, ne sont toujours pas pourvus. La semaine dernière, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann ont refusé de parler de politique. La notion d'exemplarité ou de nombrilisme est visiblement à géométrie variable. Mais la déconnexion bourgeoise a sans doute atteint son paroxysme quand l'émérite capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a récité en conférence de presse les éléments de langage du camp présidentiel, mettant ainsi un signe égal entre le post-fascisme et la gauche socialiste. La question qui se pose à nous est donc la suivante. Comment réagiront celles et ceux qui ne veulent pas se mouiller, pas se positionner, au moment où les mesures concernant les binationaux pourraient par exemple se généraliser au sport, on ne sait pas. À plus court terme, quelle réaction face à une déferlante de commentaires racistes contre les joueurs de l'équipe de France face à un potentiel échec sportif qui pourrait très bien arriver dans les prochains jours? Que faire quand il sera trop tard en somme? La peur, l'inquiétude, l'incertitude, tous ces sentiments nous dominent. En attendant, il faut simplement peut-être, avec humilité, rouvrir un livre d'histoire, mais pas n'importe lequel. Celui du ballon rond. Partir au Brésil et évoquer Socrates. Son engagement permet au Bencesso Football Club de sortir de la culture esclavagiste. Socrates incarnait ce collectivisme, cet altruisme tant sportivement qu'humainement. Ce collectivisme et cet altruisme, nous le retrouvons aujourd'hui dans le sport, en particulier dans le football. Pour moi, comme pour tant d'autres, il permet une chose vitale qu'il faudra faire ensemble dans l'isoloir lors des deux prochains dimanches, tout simplement Front Populaire.
Eh bien, merci beaucoup, Hugo. Le LEM Sport pour cette saison, c'est terminé. On se donne rendez-vous en septembre, si tout va bien, si on existe toujours après le 7 juillet, si on ne nous a pas coupé le sifflet. Et bien, merci les gars pour cette saison.
Bon, à la rentrée.
À la rentrée. Allez, à la rentrée. Allez,
merci à toi, Thierry. À bientôt.
LEM, l'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger.